Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de Ostisa et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
En RDC, selon le programme national de lutte contre la drépanocytose, au moins 3 Congolais sont atteints de la drépano ou anémie SS, une maladie du sang et qui se caractérise par des crises à répétition, ce qui occasionne beaucoup de dépenses pour la prise en charge médicale. Que faire pour prévenir ces crises? Comme je l'ai dit en sommaire, nous parlons de cette question avec notre invité, Dr. Patricia Foto, directrice nationale du programme de lutte contre la drépanocytose, qui est déjà dans ce studio. La première question que nous posons à notre invité, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est SS, madame?
Bonjour pour la question. L'anémie SS, c'est une maladie chronique et génétique. Elle est transmise de manière autosomale récessive. Il faudrait donc que l'un des parents soit porteur du trait S sur son hémoglobine. Elle se reconnaît donc à partir des 3 premiers mois de la vie par des gonflements des mains et des pieds, une anémie aiguë, une anémie chronique parfois, et des fièvres, la perte de fièvre et de pleurs incessants, un retard de croissance, ballonnement abdominal. Et l'enfant peut présenter parfois des dyspnées et de la tachycardie. Ce sont donc les symptômes qu'on peut réaliser à partir de 3 mois. Et c'est ça. Et donc, il faudrait donc, pour cela, que nos enfants soient donc dépistés précocement pour que donc, éviter donc que la prise en charge ne soit tardive, afin de donc d'améliorer donc les conditions de vie de nos enfants.
Oui, docteur, alors comment soigne-t-on l'anémie SS?
L'anémie SS, c'est une maladie qui présente des complications qui sont assez graves. Nous avons 4 syndromes, dont nous avons le syndrome infectieux. Nous avons les crises vaso-occlusives. Nous avons le syndrome thoracique aigu. Et puis, comment le soigne? Nous soignons donc les complications. Donc, les complications. C'est-à-dire une prise en charge précoce, et c'est la meilleure manière de pouvoir prendre en charge les enfants souffrant de cette maladie. D'abord, faire le dépistage, et puis après faire une prise en charge thérapeutique. Nous préconisons aussi la vaccination. La vaccination contre les salmonelles et les hémophilus influenza pour les infections pneumocoques. Et il y a aussi la prise en charge chirurgicale et où on peut faire des replacements, des hip replacements s'il y a des causes de la tête fémorale, et prendre en charge aussi les problèmes majeurs, l'infection, la fièvre, la douleur, qui sont vraiment des problèmes assez fréquents chez les drépanocytes.
Et docteur, peut-on guérir de la drépano?
Oui, il y a moyen de guérir de la drépanocytose en faisant la greffe de la moelle osseuse, mais cela est vraiment très coûteux et ce n'est pas encore accessible dans notre contexte socio-économique de la RDC.
Alors, on parle souvent dans les cas d'anémie et de la transmission autosomiaque. Que cela veut dire?
Transmission plutôt autosomale.
Autosomale.
C'est-à-dire que si l'un des parents porte le trait drépanocytaire, donc est AS dans son hémoglobine, et qu'il rencontre son partenaire aussi portant le trait AS, ils ont donc des chances de pouvoir avoir des enfants SS. Mais si l'un des parents est AS et l'autre AA, ils auront donc des enfants sains, des AS ou bien des SS.
C'est-à-dire des probabilités.
Oui.
Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut être SS alors que l'on est, par exemple, AB ou O positif?
Là, nous parlons donc du groupe sanguin. AB, c'est le
groupe sanguin.
Oui. C'est le groupe sanguin qui peut être AB, O, oui, etc. Là, c'est une autre entité qui est apparemment différente de l'hémoglobine S. Le groupe sanguin, c'est donc une entité qui permet de définir de classifier les hommes selon leur appartenance à un groupe pour pouvoir donc faire la compatibilité sanguine lors des transfusions.
Alors, on va évoluer un peu avec vous. Question d'ailleurs de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également contribuer à cette émission en nous faisant parvenir leurs préoccupations. Nous avons dans ces studios Dr Patricia Foto, directrice nationale du programme de lutte contre la drépanocytose. La question c'est, anémie SS, comment éviter les crises à répétition? Vous avez peut-être un enfant qui fait des crises hein, de ce genre à la maison, et vous cherchez des voies et moyens pour aider cet enfant à sortir de cette situation. Ben, c'est vrai, vous n'êtes pas médecin, et nous non plus. Hein, voilà, donc il faudrait que nous puissions, au travers des interventions de Dr Patricia Foto, que nous ayons tous une idée très claire là-dessus. Donc, envoyez-nous vos réactions à service@radiocapi.net ou encore nous écrire, composer les 081 070 2540. Voilà, donc ça fait pas que j'ai perdu. Et d'ailleurs, c'est du bon. Voilà, on va évoluer avec notre invité, docteur. Qu'est-ce qui multiplie aujourd'hui les crises de chez un anémique?
Bon, je dirais que d'abord nous avons
à la base de
ces crises, nous avons l'hypoxie, nous avons la déshydratation, nous avons l'infection et la grossesse. C'est donc à partir de ces facteurs que nous avons donc mis une certaine disposition pour que les malades drépanocytaires puissent donc être à l'abri de certaines crises. Donc il faudrait donc reconnaître cela, ça a été résumé dans les dix signes qui sont se faire consulter chaque mois au centre de santé, même en dehors des crises, bien se laver le corps et les dents pour éviter les infections, surveiller la température si elle est plus de 38 degrés Celsius, ou s'il fait très chaud, il faut que l'enfant donc ne soit pas déshydraté, et il faut aussi boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Éviter les endroits mal aérés enfermés, l'altitude et le voyage en avion non pressurisé. Avoir une alimentation variée, équilibrée, suffisante pour perdre donc la construction, protection et l'énergie. Et surveiller la couleur des yeux et des urines. Et emmener donc l'enfant au centre de santé rapidement si elle est jaune, s'il est donc de l'ictère. Éviter ce qui peut ralentir ou bloquer la circulation du sang, par exemple des vêtements trop serrés, des jambes croisées, et puis des tresses trop serrées aussi, peintures et chaussures, etc. Dormir au moins 7 heures par nuit. Éviter les efforts physiques très intenses, par exemple les sports de compétition, le catch, la course, la natation, le cyclisme. Et promouvoir la protection du drépanocytaire contre les piqûres des moustiques, donc faire la prévention au paludisme par l'assainissement du milieu, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides.
Oui, nous rappelons à nos auditeurs qui nous excuseront pour des perturbations qu'ils auraient peut-être constatées au cours de cette émission sur nos lignes téléphoniques. Donc c'est une situation indépendamment de notre bonne volonté. C'est pourquoi nous avons donné notre moyen de contact par SMS, donc 081 070 2050. Nous avons déjà en ligne Jean Kassenga de Kinshasa. Voilà, Jean Kassenga de Kinshasa. Bonjour.
Ah oui, je vous écoute.
Oui, monsieur Jean, alors quelle est votre préoccupation?
Oui, c'est mon petit frère qui a posé la question. Il fait. Fabrice vient.
Ben voilà, passe-nous Fabrice.
Ok, bonjour, c'est Kassenga Mwambi.
Oui, Kassenga Mwambi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Juste, je voudrais demander concernant lors de l'anémie de drépanocytose. Quand nous remarquons des crises, il y a d'abord l'augmentation de du volume de la tête. En dehors de ça, il y a encore le malade se plaît souvent de douleurs au niveau du colon lombaire.
Voilà, madame.
Il y a encore ceci. Je voudrais encore demander dans de tels cas quelle sera la conduite à tenir.
Merci beaucoup, Fabrice, de nous avoir appelé de Kinshasa. Nous avons dans ce studio Dr Foto. Docteur, ça me dit, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison que les gens pensent que quand on observe une crise chez un anémique, on remarque que la tête prend quand même des volumes. C'est vrai. Alors, quelle attitude préconisez-vous à toutes les personnes qui sont dans des familles où ils ont des cas d'anémie?
Dire que la tête prend un volume, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt que ces enfants-là, ils ont aussi des problèmes au niveau du système osseux, qui fait qu'ils peuvent avoir un volume crânien qui est un peu plus grand que par rapport à des déformations de la boîte crânienne, qui est un peu différente des enfants qui sont normaux. Et par rapport aux douleurs lombaires, bon, il faudrait d'abord que les parents soient avertis, il faut donc sensibiliser, éduquer les parents par rapport à la maladie et la prise en charge à domicile, de savoir quels médicaments donner, commencer par le paracétamol, les plus petit à petit, avancer par des anti-inflammateurs qui sont un peu plus forts si la douleur persiste. Et toujours, après cela, se rendre dans un centre de santé où la prise en charge de la drépanocytose, par exemple ici à Kinshasa, le centre Mabanga de Yolo.
Docteur, il semble que l'anémie est asymptomatique les trois premiers mois.
C'est parce que les enfants ils ont encore l'hémoglobine fœtale qui fait que les manifestations cliniques ne sont pas encore reportées avant les trois mois. Mais à partir de trois mois, nous avons donc les gonflements des mains, des pieds, nous avons des pleurs incessants, on peut avoir de l'ictère, dont la coloration jaune, des yeux, tout cela qui peuvent donc avertir le parent, et des infections à répétition aussi qui peuvent mettre le parent en alerte, qu'il y a donc un problème qui se pose et qui doit consulter un médecin, et que le médecin, maintenant, à partir de ces symptômes et des signes qu'il aura révélés chez l'enfant, devra donc maintenant orienter sur un test de l'hématophorèse, s'il est suspect.
081-070-2050, c'est pour les SMS, et si vous pouvez nous écrire, faites-les à service@radiocapi.net. Nous poursuivons avec notre invité dans ce studio et nous parlons de l'anémie SS, comment éviter les crises à répétition.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Docteur Koto, selon certains experts, les cinq premières années chez l'enfant anémique sont les plus critiques.
Évidemment. Surtout dans notre contexte socio-économique et dans la situation hygiénique dans le contexte dans lequel nous vivons, les enfants ils sont exposés aux infections de toutes sortes comme le salmonelle qui donne la fièvre typhoïde, les infections bactériennes, le pneumocoque, l'hémophilus influenza, d'où donc à l'insalubrité. Et au manque d'hygiène dans le contexte dans lequel nous vivons, donc, c'est tout à fait normal que nos enfants soient réellement à risque. Et surtout, c'est parce que le dépistage précoce ne se fait pas de manière systématique encore, mais cela se fait quand même dans certains centres, mais pas encore de manière systématique sur le territoire national. C'est pour ça que certains enfants qui peuvent être donc anémiques ne sont pas dépistés à la naissance, ce qui donc réduit leur chance d'une prise en charge correcte, parce que donc l'ignorance s'est installée et les parents ne savent pas à quel droit se vouer. Et toutes les infections et les maladies sont plutôt donc dirigées peut-être à une malchance ou bien à une sorcellerie, dont les parents sont donc ignorants qu'il y a un problème de drépanocytose qui se pose à ce stage-là. Oui, parce que les enfants n'ont pas été dépistés à la naissance.
Oui, et si peut-être on pourra encore éclairer davantage l'opinion de ceux qui nous suivent en ce moment sur l'hygiène à observer, en tout cas le cas d'anémie, quelle est l'hygiène à observer?
C'est ça que je disais, dans les dix principes que nous avons élaborés, il faudrait donc éviter que l'enfant soit dans un milieu d'hypoxie, un état d'hypoxie. Donc il faudrait que l'oxygénation soit, à la maison soit bien aérée, l'hygiène corporelle, bien se laver les dents, bien se brosser les dents tous les jours, éviter donc les infections, la propreté.
Est-ce que le froid n'est pas un obstacle? Le froid ne peut pas déranger, ça ne peut pas causer encore du tort ou peut-être aggraver encore l'état d'un anémique?
Se protéger contre le froid, bien sûr, pour se protéger contre les infections respiratoires, mm-hmm. Qui pourraient aussi déclencher aussi une crise.
Tout à fait. Alors, il faut parler de l'éducation préventive. Quels sont les éléments qu'on peut retenir par rapport à cette éducation dans les cas d'anémie SS?
Il faudrait donc que cela se fasse à tous les niveaux, dans les églises, sensibiliser dans tous les partenaires, dans les églises, les écoles, donc là où on peut atteindre la population, sensibiliser, leur éduquer, parler, leur faire sortir de cette ignorance, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose dans notre société et qui est très important parce que, comme vous le savez, 25 à 30% de la population est porteur du trait S. C'est-à-dire que là, c'était un danger, parce que si ces gens-là sont ignorants, donc, ils pourront donc transmettre à leurs descendants des enfants qui seront donc un fardeau très important dans la société et pour les familles.
Il est toujours conseillé de pouvoir, avant d'ailleurs de contracter un mariage, de faire l'électrophorèse, pour connaître quand même l'état métabolique, c'est comment on appelle ça, pour connaître
le statut
hémoglobique. Voilà, le statut hémoglobique, c'est quand même hyper important.
Je pense qu'avant le mariage, c'est un peu tardif parce que là, les gens sont déjà engagés. Je pense qu'il faudrait donc le faire à une période un peu plus précoce. C'est comme ça que nous préconisons d'abord le dépistage néonatal pour donc sauver, améliorer la vie de nos enfants qui seront donc pris en charge correctement dans un centre de santé où les gens sont, les médecins sont spécialisés dans cette prise en charge. Et puis aussi de dépister tardivement dans les écoles, les enfants à chaque niveau qui sachent que son état hémoglobinique, que le parent sache que mon enfant porte telle ou telle hémoglobine.
Nous avons Norbert Dibelaï de Kananga et Saraza Malika de Kinshasa. Bonjour Norbert.
Bonjour, je dis Daniel Kachava. Bonjour, je sais qu'il est le docteur. Je vais juste poser la question, je sais quels seront les dangers si on n'amène pas l'enfant à l'hôpital pour aller se faire dépister. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a une structure dans des provinces qui peut s'engager pour encadrer ces enfants?
Oui, voilà, nous avons Saraza Malika de Kinshasa. Bonjour Saraza.
Bonjour, je m'appelle Malika Saraza. Je suis agent de développement communautaire à la hausse, à la direction des aides de développement de l'église du Christ au Congo. Ma question est celle-ci. Bon, selon la rumeur, on dit que la durée moyenne de vie des panocytaires ne dépasse pas 25 ans. Est-ce vrai? Oui ou non?
Voilà, merci. Et nous saluons les auditeurs qui nous suivent à Kananga. Et on profite également de faire un coucou à tous ceux qui sont branchés sur Okapi, à Kinshasa. Nous avons Dr. Patricia Poto, deux préoccupations. La première, c'est celle de Norbert. Et la seconde, nous vient de Malika Saraza. Malika qui parle de la durée moyenne de vie, hein, des anémiques. Que répondez-vous à Malika?
L'espérance de vie des drapanocytaires dans des pays qui sont déjà développés comme les USA, l'UK, la France, l'Arabie Saoudite a déjà été assez élevée jusqu'à moins 50 et un peu plus parce que la prise en charge est donc précoce, vous comprenez?
Oui.
Donc là, l'importance sera du dépistage néonatal pour que ces enfants-là soient reconnus comme tels et puis traités de manière globale avec l'éducation familiale et tout, une prise en charge globale.
Et puis, il y a Dibelaï de Kananga qui a parlé des structures à Kananga. Son souci, c'est quand même un souci important, parce que là, au niveau de Kananga, on a comme l'impression que le programme national de lutte contre la trépanocytose n'est pas opérationnel.
Vous voyez, le programme a été instauré ici en 2001 et depuis 2001, donc nous appelons donc à faire intégrer la prise en charge au niveau de toutes les structures de santé. Pour le moment, le ministère de Santé, évidemment, dans les 5 chantiers, parce que la santé est aussi un des chantiers de notre construction. Nous avons donc cherché à intégrer la lutte contre la maladie dans toutes les structures de santé au niveau donc de la zone de santé, au niveau de l'hôpital général de référence et au niveau intermédiaire. C'est comme ça que donc dans la réforme, dans les réformes qui seront donc adaptées donc dans les mois qui suivront au niveau du ministère de la Santé, la proposition sera donc intégrée à tous les niveaux et de là il y aura donc des coordinations qui vont donc s'ouvrir dans toutes les provinces. Mais jusque là, nous avons des ONG, il y a aussi qui sont nos partenaires qui agissent sur le terrain donc pour faire la prise en charge d'une manière assez pas très correctement, mais qui essaie au moins de prendre en charge certains enfants anémiques, les soulager, faire la prise en charge thérapeutique et psychosociale aussi, qui est très important.
081 070 20 50, c'est pour les SMS.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Docteur Photo, la maternité chez une femme anémique, est-ce que ça pourrait se faire correctement ou peut-être avec des problèmes?
Merci pour la question. La maternité étant déjà un état à risque, même chez une personne normale. Et la femme anémique, elle qui, donc, quand on est anémique, on a donc un taux d'hémoglobine qui va de 6 à 9 grammes. Donc, vous comprenez que, avec tous les changements hématologiques que la femme enceinte porte, comme.
Quand vous parlez des changements hématologiques,
au niveau du sang, voilà. Oui. Il y a augmentation du volume plasmatique et tout, ça. Il y a plein de changements déjà hématologiques qui se passent chez la femme normale. Et donc, chez la femme drépanocytaire, tous ces changements-là font que donc, elle est encore à très haut risque. Mais la maternité est possible chez cette personne-là, si elle se fait dans un milieu spécialisé, où il y a une prise en charge correcte par un gynécologue et toute une équipe de gynécologues, anesthésistes. Donc toute une équipe doit être prête pour pouvoir agir
donc,
rapidement.
Donc le médecin doit être un peu plus regardant chez la femme anémique que chez la femme normale.
La femme anémique ne peut pas accoucher dans un centre spécialisé où le médecin est formé pour prendre en charge cette personne, parce que c'est une femme qui est particulière.
Est-ce qu'il y a des spécialistes au Congo? Est-ce qu'il n'y a pas une carence au Congo de spécialistes en la matière?
Évidemment, nous n'avons pas assez de médecins spécialistes déjà en général. Et puis bon, vous connaissez d'abord le nombre de médecins par rapport à la population qui est encore insuffisant par rapport à la couverture qui devrait être la couverture normale. Ce qui fait que bon, il y a un problème qui se pose de médecins qui a la formation qui doit intervenir, mais ici, à Kinshasa, parce que le cas échéant, nous avons au centre Madanga les médecins qui sont spécialisés.
L'unique centre à Kinshasa.
L'unique centre. Mais il y a aussi mon collègue, et je crois Moutomodi Kembe aussi.
Le centre de Kisangani est d'ailleurs déjà fermé, on dirait.
Celui de Kisangani, oui, il est fermé.
Il est fermé parce que faute des moyens, selon nos informations.
Oui, mais en ce qui concerne Kinshasa, les personnes anémiques, elles sont déjà parce qu'elles consultent là-bas pour leurs douleurs, les crises, etc. Et quand elles sont enceintes, c'est là-bas qu'elles vont. Donc, se faire accoucher par des médecins qui sont donc bien rodés et qui donnent des résultats donc impressionnants. On a des femmes anémiques qui donnent des jumeaux, etc. Donc, on la prise en charge quand elle est correcte. La femme anémique.
Mais quel comportement à tenir en tant que femme anémique pour ne fût-ce que avoir une maternité sans problème?
Bon, écoutez, le problème qui est.
Personnellement, sans l'intervention de médecins à la maison, donc au quotidien.
Au quotidien, bon, ben, il faut d'abord que la femme puisse surveiller les signes de danger, par exemple un écoulement vaginal, etc. Qui arriverait chez toute femme qui est enceinte, ou bien du sang, mucus sanguine, et tout, à savoir reconnaître les signes d'un danger et puis courir rapidement dans un centre de santé spécialisé.
Bon, voilà, il y a une question de curiosité, impressionnant ma compréhension, Monique Dima du Nord Kivu, qui dit docteur, précisez-nous s'il vous plaît les groupes sanguins. Quels sont les groupes sanguins qui peuvent causer l'anémie STS? Exemple, le couple qui a le même groupe O positif. Est-ce que ce couple peut aussi donner naissance à des anémies?
Le monsieur est en train de mélanger.
Voilà, parce que moi, c'est vraiment l'attendement, je dis.
Il a déjà mélangé deux entités qui sont tout à fait différentes, groupe sanguin et hémoglobine. Ok. Le groupe sanguin, il y a plusieurs groupes sanguins, mais ceux qui sont le plus utilisés, c'est le groupe ABO et le facteur Rhesus. Ok. Donc, quand une personne est du. Bon, ça, c'est autre chose. Bon. Et le chiffre de l'hémoglobine, c'est aussi autre chose. On ne peut pas mélanger groupe sanguin et hémoglobine.
Voilà. Alors, Alors, on va terminer peut-être par deux petites questions. Quelle est l'une des complications la plus sévère chez l'anémique?
Vous savez, les complications de l'anémique, elles sont de tout ordre. Elles sont multiples et elles concernent tous les organes. Ok, mais écoutez, mais la plus sévère, c'est l'anémie grave elle-même, et puis la crise vaso-occlusive qui s'en suit. Nous avons aussi l'asthénie fonctionnelle, donc la rate qui n'arrive plus donc à faire son pouvoir de filtration et donc de produire les anticorps, et là les infections qui s'en suivent. On peut pas dire donc qu'il y a une complication qui est la plus sévère, parce que l'anémie elle-même est déjà un problème, déjà quand elle est grave, c'est déjà la complication sévère. Donc dire que la plus sévère, c'est difficile à dire, parce qu'il peut avoir une complication et tant d'autres qui s'en suivent, qui sont donc multipliées. Mais les complications, elles sont multiples, elles vont de la tête aux pieds. Nous avons des accidents cardiovasculaires, nous avons une rétinopathie au niveau des poumons, nous avons donc pour avoir des embolismes pulmonaires au niveau de la rate, nous avons une asthénie fonctionnelle au niveau des membres, nous avons des coxarthroses, des fractures pathologiques, etc. Nous avons des ulcères malléolaires. Donc vous comprenez que l'anémique, c'est une personne qui est donc exposée à un nombre inexplicable de complications.
Nous avons le dernier auditeur en ligne, Hugues Kitembo de Lubumbashi. Bonjour Hugues.
Bonjour docteur.
Bonjour.
J'avais une question, je voulais savoir si la maladie autosomière, alors pourquoi la tare est-elle transmissible à la descendance? Parce que si la tare est portée par les hétérozoons, alors c'est à ce niveau-là que nous allons remarquer que la maladie s'est perpétuée durant la descendance, quoi. Et la seconde question est de savoir, est-ce que la transmission la transfusion sanguine est-elle une solution dès le bas âge, dès les 3 ou 3 premiers mois, si on peut remplacer le fait que l'enfant souffrira toujours de la drépanocytose?
Bon, je commençais par la dernière question. Bon, la transfusion sanguine, elle est effectuée que lorsqu'il y en a vraiment besoin, il y a des signes d'anémie grave et de décompensation, comme l'attaque qui plaît, etc. C'est là que nous allons donc transfuser l'enfant. Et ça dépend aussi du taux de l'hémoglobine et des manifestations cliniques qu'on doit donc associer avant de transfuser un enfant. Et la première question,
Oui, donc vous parlez de pratiquement de l'autosomiale.
Ah, de la transmission
autosomiale.
La transmission qui est autosomale, c'est-à-dire récessive. C'est-à-dire c'est au niveau des gènes. Donc il n'y a aucun moyen de l'éviter à part la prévention, donc la connaissance de son statut hémoglobinique au départ. Donc si un des parents porte le trait S, comme je l'ai dit, et que l'autre aussi, son conjoint, porte aussi le trait S, ils ont donc des chances de mettre au monde un enfant SS. Et au niveau des individus, il n'y a rien à faire pour pouvoir éviter cela, à part donc la connaissance de son statut hémoglobinique par donc un test, un dépistage.
Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de réactions qui nous sont parvenues par SMS. Je prends en tout cas une qui me semble un peu très pertinente. Que faire pour une éventuelle opération, une intervention chirurgicale au niveau de moelle épinière, et dans quel pays ça s'effectue, hein, et combien ça peut coûter, docteur? Ça, c'est Jean-Claude Calombo en Bougimaï.
Donc, il parle donc de la crise de la moelle osseuse, donc pour pouvoir donc guérir la maladie. Bon, mais dans les pays développés, comme aux États-Unis, la France, en Angleterre,
en Afrique.
Ici en Afrique,
à part la RDC,
bon, en Afrique, je le fais, hein, c'est la crise de la moelle osseuse, et puis je suppose en Afrique du Nord où les infrastructures
sont basées.
Oui, les pays du Maghreb, le Maroc et tout, la Libye, donc, là-bas, donc je suppose que la crise de la moelle osseuse se fait.
Il y a beaucoup à dire autour de cette question, hein, concernant l'anémie. Nous allons y revenir, madame. Permettez-nous de venir encore dans ce studio pour en parler. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. On remercie tous les auditeurs qui nous ont accompagnés, hein, pour le traitement de cette question. On dit merci à notre invité et à la prochaine.
Je vous remercie. Merci.